L'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Notre émission d'aujourd'hui est sur la guerre des six jours. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Michael, j'ai une question vraiment importante. Combien de temps a duré cette guerre ?
Elle n'est pas terminée. Quand elle sera terminée, je te le dirai.
Merci beaucoup.
Mais je crois que ça n'est trêve de plaisanterie. Je pense que nous sommes encore dans les conséquences de la guerre des six jours, puisque la situation d'Israël, disons la situation géopolitique d'Israël aujourd'hui, est la conséquence finalement de la guerre des six jours, qui ne commence pas d'ailleurs le 5 juin 1967 non plus.
D'accord.
Que pour bien comprendre ce qu'a été la guerre des six jours, il faut à la fois analyser le contexte que nous allons faire et bien évidemment les conséquences à la fois stratégiques, politiques, militaires, bien sûr. Mais au-delà de tout ça, c'est l'avenir d'Israël qui s'est joué à ce moment-là et qui se joue encore. Bien sûr, il y a eu, la conquête par Israël de Jérusalem, de l'ensemble de la ville de Jérusalem, du plateau du Golan, du Sinaï et de la Judée-Samarie. Mmh. Alors avec l'Égypte, il y a eu un accord qui a été conclu au lendemain de la guerre de Kippour. On aura le temps de parler de la guerre de Kippour, bien évidemment. Mais avec les autres pays, il y a eu un accord avec la Jordanie. Mais la question de la Judée-Samarie, de l'avenir de la Judée-Samarie, du plateau du Golan et de Jérusalem sont encore des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui peuvent être négociées entre Israël et ses voisins, et éventuellement avec aujourd'hui un partenaire qui n'existait pas à l'époque, qui est peut-être, est-ce qu'il est un partenaire ou pas, c'est une autre question, c'est l'autorité palestinienne.
D'accord.
Alors, la guerre des six jours, il y a quelque chose de très particulier, qu'il faut bien comprendre dans la guerre des six jours, c'est que, évidemment, c'est la troisième guerre d'Israël. Il y a eu la guerre d'indépendance. On a parlé de la guerre de Suez ou de Sinaï. Mais la guerre de six jours, c'est un petit peu particulier parce que l'État d'Israël existe. On est en juin, mais ça commence un petit peu avant. Disons, on est au mois de mai 1967. Donc l'État d'Israël existe depuis 19 ans, presque 20 ans, une vingtaine d'années. À aucun moment on a senti, depuis 1947-48, depuis la fin de la guerre d'indépendance, que l'État d'Israël était en danger de destruction. Or là, quelques semaines avant la guerre des six jours, il y a une tension extrêmement vive autour de l'État d'Israël, et notamment dans le Sinaï, et dans ce qu'on a appelé la mer Rouge, c'est-à-dire le détroit de Tiran. Il y a des tensions. Il y a eu, au mois d'avril déjà, une bataille aérienne qui s'est déroulée à la frontière israélo-syrienne, au cours de laquelle 6 avions syriens ont été abattus au-dessus du lac de Tibériade par l'aviation israélienne. Donc la situation est tendue. Mais ce qui va marquer, je dirais, les consciences, les esprits à la veille, c'est qu'il y a pour la première fois une coalition sous l'effet de ce qu'on a appelé le panarabisme, c'est-à-dire une forme de mouvement national arabe, dont les figures de proue étaient Nasser en Égypte et Assad en Syrie, qui étaient des nationalistes arabes, au sens, je dirais, presque laïque du terme. C'est-à-dire ce sont des États qui sont musulmans, mais qui étaient devenus des États avec une idéologie panarabe. Autrement dit, l'idée qu'il y a une grande nation arabe qui va de l'Égypte en passant par la Jordanie, l'Irak, la Syrie, et que, au fond, l'État d'Israël doit être détruit pour que cette grande nation arabe se réalise. Et c'est la première fois qu'on a le sentiment, à travers les déclarations, notamment du président Nasser et du président syrien, du président en Irak, c'est la première fois que on parle d'une destruction totale de l'État d'Israël et de la disparition. Les slogans qui sont proférés à l'époque par Nasser et également par le représentant des Palestiniens de l'époque, qui s'appelait Ahmed Choukairi, c'était « Les Juifs à la mer ». C'était chanté par la grande chanteuse égyptienne Oum Kalsoum dans ses chansons.
C'est vrai ?
Oui, qui dans tous ses concerts parlait de « Itbach al-Yahoud », c'est-à-dire égorger les Juifs et les jeter à la mer.
C'est vrai ?
Oui. Alors on a ce sentiment-là. Je crois que c'est ça, c'est important, parce que, évidemment, le déroulement de la guerre des six jours va se placer dans le prolongement de ces déclarations qui sont permanentes à la radio, à la télévision égyptienne, syrienne. On n'entend que cela. Nous allons jeter les Juifs à la mer et nous allons libérer la Palestine. Mmh. Alors, ça n'est pas quelque chose qui est, sorti de l'imagination de quelqu'un. C'est qu'au-delà de ces déclarations, qu'on peut considérer qu'il y a toujours eu des déclarations extrémistes de dirigeants, mais en novembre 1966, c'est-à-dire quelques mois avant le début de cette guerre des six jours, il y a une alliance militaire qui est signée entre l'Égypte et la Syrie.
D'accord.
Qui donc les engage. Ceci, un des deux pays attaqué ou est dans un conflit, l'autre pays doit évidemment se mobiliser immédiatement. Dans le cas de cette alliance, la Syrie va à plusieurs reprises essayer d'envenimer la situation. J'ai parlé de cette fameuse attaque de MiG syriens qui ont été abattus sur l'axe syrien, des MiG qui sont entrés dans l'espace aérien israélien. Alors évidemment, cette première destruction d'avions syriens, ça montrait déjà que finalement, l'armée de l'air israélienne était supérieure. Ça a été un signe important dans la décision qui a été prise par les dirigeants israéliens de lancer une attaque préventive.
De la part de la Syrie, et c'était une manière de provoquer Israël pour qu'elle rentre en guerre avec elle et ensuite qu'il y ait une alliance
avec l'Égypte. Oui, on ne sait pas très bien, mais il faut savoir aussi que l'Union soviétique était le principal soutien des pays arabes de l'époque. Et donc l'Union soviétique essayait de transmettre des informations selon lesquelles Israël concentrait des forces à la frontière, etc., ce qui était faux. Et évidemment, suite à cette désinformation, le président égyptien Nasser va mobiliser des forces dans le canal de Suez et dans le Sinaï et va exiger le départ de ce qu'on appelait les observateurs de l'ONU. Mmh. Autrement dit, il va premièrement faire évacuer les troupes de ce qu'on appelait les casques bleus, qui ne vont pas, face à cette demande, cette exigence de retrait, l'ONU va accepter.
C'est-à-dire
pourquoi ? Qu'ils ne vont pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'être attaqués. Et donc, ils vont accepter de se retirer, ce qui est contraire, évidemment, aux accords de cessez-le-feu qui avaient été signés après la guerre de Suez. Mmh. Et puis, ils vont bloquer à la fois le canal de Suez, mais aussi le golfe de Tyrane, c'est-à-dire la mer Rouge, et donc la possibilité pour Israël de faire venir des bateaux jusqu'au port d'Elat. Le 16 mai, c'est-à-dire on est trois semaines avant la guerre, Nasser va déplacer les forces en Sinaï en direction de la frontière israélienne, après le départ donc de ces casques bleus, le long de la frontière. Et finalement, malgré au départ, l'ONU a refusé, mais c'est le 19 mai, Nasser a menacé d'attaquer les casques bleus, et donc les casques bleus se retirent ou ils se font expulser à la fois du Sinaï et de la bande de Gaza. Mmh. Alors, lorsque les troupes égyptiennes entrent dans le Sinaï, en contradiction avec les accords de cessez-le-feu après la guerre de Suez, évidemment, et que les navires israéliens ne peuvent plus pénétrer dans le détroit de Tyrane à partir du 22 mai, il y a une situation qu'on appelle en relation internationale une situation de casus belli. Donc, c'est une situation de guerre. Le fait de bloquer des bateaux, c'est en fait une déclaration de guerre. Donc, lorsqu'on dit que l'État d'Israël a attaqué préventivement, militairement, c'est peut-être vrai, Mais politiquement et sur le plan du droit international, c'est faux. Puisqu'à partir du moment où on ne respecte pas les accords de cessez-le-feu et où on bloque le passage de bateaux dans le canal de Suez et dans le détroit de Tiran, c'est un casus belli selon toutes les définitions du droit international. Alors, évidemment, Israël s'adresse aux grandes puissances pour demander de faire respecter les accords. Et la diplomatie va échouer. C'est-à-dire que les Arabes, et notamment Nasser, surtout la Syrie, il y avait moins de choses à faire. Il n'y a pas vraiment de casus belli avec la Syrie, sauf cette attaque qui a eu lieu en avril. Mais depuis, la Syrie ne faisait que concentrer des troupes à proximité de la frontière, donc qui se trouvaient non pas sur le Golan, mais en bas, c'est-à-dire sur le lac de Tibériade. Mmh. C'est-à-dire que les forces syriennes ne se trouvaient sur le Golan, mais aussi au bord du lac de Tibériade, pratiquement à un kilomètre. Donc on était vraiment dans une situation où n'importe quel bombardement syrien attaquait les kibboutzim qui se trouvent autour du lac de Tibériade ou en Galilée. Donc il s'agissait d'une provocation et la diplomatie, aussi bien les Américains que les Européens, n'ont pas réussi à faire reculer les Égyptiens qui ont donc déplacé des troupes et bloqué le détroit. Alors ce sont les premiers événements qui ont fait qu'il y a eu une période qui a duré environ 2 semaines, qui était une période d'attente, où à la fois en Israël, on appelait ça cette période de tension, où on voyait à la fois les armées arabes
avancer
en quantité le long de la frontière, aussi bien au nord qu'au sud. On savait également que la Jordanie, qui n'était pas liée par un traité avec l'Égypte et la Syrie, mais s'était malgré tout engagée à intervenir s'il y avait une guerre ou un conflit qui se déclarait, et évidemment le soutien de l'ensemble des pays de la Ligue arabe, c'est-à-dire la Syrie, le Liban et éventuellement d'autres pays qui par la suite n'ont pas participé directement à la guerre, mais qui ont soutenu en envoyant ici ou là des soldats ou en soutenant politiquement. Alors, malgré la gravité de cette situation, pendant 2 semaines, l'État d'Israël attend. Évidemment, l'État d'Israël se prépare militairement, mais on attend encore une intervention, je dirais entre le 22-24 mai et le 4 juin, on attend une intervention des grandes puissances pour faire reculer, finalement, Nasser, pour qu'il ouvre à nouveau le détroit de Tiran et qu'il retire une partie de ses troupes du Sinaï. Malheureusement, ce qui va se passer va être exactement le contraire, puisque le 30 mai, la Jordanie va se joindre à l'Alliance, et donc va signer un traité de défense mutuelle avec l'Égypte, et décider même d'un commandement militaire commun.
D'accord.
Donc il y avait, au fond, une espèce de coopération, de coordination de la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, qui sont les 3 grands pays limitrophes d'Israël, qui sont liés par une alliance, un traité d'alliance militaire. Alors, à ce stade, on peut dire une solution diplomatique n'apparaissait plus comme possible. Et donc, on a vécu à ce moment-là dans l'idée que la guerre était inévitable. En Israël, le gouvernement est dirigé par Lévi Eshkol. Mmh. Lévi Eshkol a succédé à David Ben-Gurion. Lévi Eshkol, on a un peu évoqué sa personnalité, est quelqu'un qui n'est pas très charismatique, qui n'a pas l'aura de David Ben-Gurion, qui n'est pas un chef de guerre. David Ben-Gurion a toujours été Premier ministre et ministre de la Défense. Lévi Eshkol était plutôt dans le genre de l'administration, donc il a été ministre des Finances. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a, je dirais, une expérience militaire ou une expérience de la Défense. Et donc, il va décider le 1er juin de créer d'élargir son gouvernement et notamment de faire entrer dans son gouvernement le 1er juin, c'est-à-dire 3-4 jours, 4-5 jours avant la guerre, Moshe Dayan, personnalité, nous avons déjà évoqué, mais à la fois charismatique, mais aussi un grand général qui a été chef d'état-major et qui donc est extrêmement connu, respecté et qui a, je dirais, une maîtrise de la question militaire. Le 4 juin, devant la situation de blocage diplomatique et le fait que les Arabes continuent à faire monter la pression, c'est-à-dire qu'à la fois en faisant masser des troupes de plus en plus nombreuses dans le Sinaï et en Syrie, mais également par les déclarations de leurs dirigeants, qui continuent à appeler au massacre de juifs. La situation devient inévitable. Et là, le gouvernement de l'État d'Israël, sous la pression justement de de ces nouveaux arrivants dans le gouvernement, qui ont plus l'expérience, et notamment Mère Moshe Dayan, une décision est prise d'appliquer ce qu'on appelle l'opération Focus, qui est une opération préventive, c'est-à-dire d'attaque préventive pour justement neutraliser.
D'attaque préventive de troupes qui étaient à la frontière avec Israël.
L'essentiel des forces de Tsahal va être massé sur la frontière sud. Mm-hmm. Au départ, la quantité, il y a quand même trois fois plus de soldats dans les armées arabes que dans l'armée israélienne. Mm-hmm. Donc, sur le plan quantitatif, l'État d'Israël est inférieur, en infériorité numérique, comme on dit. Et donc, la question va être de savoir quel va être le plan d'attaque possible. Donc, au départ, on pense que il va falloir faire, si la guerre se déclare, il va falloir d'abord se battre sur un front et ensuite passer à un autre. Et pour réaliser cette stratégie, il faut, avoir un certain nombre de gages stratégiques.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il faut prendre un avantage sur l'adversaire, neutraliser au fond son action, de façon à ce que aussi bien la Syrie, par exemple, ne puisse pas tout de suite attaquer, puisque il n'y aura pas suffisamment de force en face. Et donc c'est la raison pour laquelle l'armée israélienne va faire deux choses. La première, c'est une attaque préventive sur une attaque préventive de l'armée de l'air israélienne.
D'accord.
Pour neutraliser les forces aériennes, à la fois égyptiennes et syriennes.
D'accord.
Et permettre ensuite, à l'armée de l'infanterie, les blindés, d'attaquer sans que l'adversaire puisse avoir un soutien aérien.
D'accord.
Alors c'est important, c'est la stratégie militaire, on ne va pas rentrer dans trop de détails. En revanche, par rapport à la Jordanie, Israël va déclarer, après cette attaque matinale du 5 juin, va demander aux Jordaniens de ne pas bouger. C'est-à-dire que nous ne sommes pas intéressés à ouvrir un front sur l'Est. Nous avons attaqué pour détruire le potentiel aérien de l'armée égyptienne et de l'armée syrienne, mais nous n'attaquons pas l'armée jordanienne tant qu'elle ne nous attaque pas.
Et la Jordanie accepte ?
Non. Mais la Jordanie, au départ, si elle n'avait pas attaqué, il n'y aurait pas eu, si elle n'avait pas attaqué ni à Jérusalem, ni en Judée-Samarie, il n'y aurait pas eu d'attaque israélienne, probablement. Alors, dans cette opération qu'on a appelée Mifza Moked, en hébreu, opération Focus, en l'espace de 3 heures, la majeure partie des forces de l'armée de l'air égyptienne sont détruites, et Tsahal, au fond, s'assure de la supériorité aérienne sur l'Égypte. Ensuite, ils feront la même opération en Syrie, et ensuite même en Jordanie et en Irak. Alors, au départ, ce n'est que parce que ces deux pays ont essayé de réagir. Mmh. Alors évidemment, cette opération aboutit au fait que une armée qui n'a pas de soutien aérien et qui se trouve à la fois face à des blindés en face et une armée de l'air assez puissante est défaite très rapidement. Et c'est ce qui fait que dans le Sinaï, les trois divisions israéliennes qui sont sur le terrain vont assez rapidement arriver à détruire cette division égyptienne. Alors, évidemment, cette journée du 5 juin, c'est une journée assez incroyable sur le plan militaire. Je crois que dans toutes les écoles militaires du monde, on enseigne cette première action, à la fois l'attaque préventive et ensuite la percée extrêmement rapide des deux divisions, qui sont la 84e et la 38e division de l'armée israélienne, qui vont immédiatement attaquer et prendre en main pratiquement l'ensemble du Sinaï en l'espace de quelques heures. La première division dans la région de Rafah, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui au nord du Sinaï, et donc en fait vont encercler la bande de Gaza, et la deuxième, la 38e division qui va aller vers le sud et qui ensuite prendra le contrôle d'une partie du Sinaï.
Michael, je te propose que nous fassions une petite pause musicale et nous revenons juste après ça.
אם אלה החיים, לאן כולם רצים? אמרת שחיפשת אושר ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגדל, אתה ילד מבולבל. אני אוהב את הזיפים שעל פניך, את החופש בעיניך. עכשיו מצאת אהבה שלא שורפת, אני יודעת ללטף, לא מתכופפת. נראה לי שאתה כבר לא במתח, לא נבהל ולא בורח. נוסעים לשכוח, גאים לברוח, לפחד בכוח. ירח בחלון מאחור, כששתקת היית גיבור. אם אלה החיים נחיה, תראה אותי, אתה נהיה דומה. אני אוהבת כשמגיע ערב להרגיש ביחד את זה. בכל אותו היום שכחת להבטיח לי מה שגם לה הבטחת, והיא גדולה עליי, עלינו.
Michael, nous voilà de retour pour parler de la guerre des six jours. Donc cette première journée...
Première journée éclair, c'est une espèce de percée incroyable comme on en a rarement vu dans les guerres modernes. Chef d'état-major de l'État d'Israël, de Bernard de Tzal à l'époque, l'État d'Israël était Yitzhak Rabin.
D'accord.
Qui avait préparé avec l'ensemble de son état-major ce plan. Évidemment, c'était au fond quelque chose d'assez inattendu, je pense, un effet surprise. C'est-à-dire que même si, effectivement, tout avait été préparé, on ne s'attendait pas à ce que l'armée égyptienne s'effondre aussi rapidement et de façon aussi dramatique. À l'époque, évidemment, on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Et donc, une partie des communiqués qui étaient diffusés sur la radio égyptienne, sur la télévision égyptienne, étaient des communiqués de victoire. Donc c'était très très contradictoire. Je pense que là, il y a eu une véritable humiliation de l'armée égyptienne. Je suis moi-même venu en Israël, j'étais jeune à l'époque, on s'était porté volontaire, on avait peur pour l'État d'Israël, et donc toute une délégation de jeunes de France était venue pour aider, pour faire quelque chose, mais on est arrivé, tout était terminé. Mais il y avait ces scènes qu'on a vues ensuite dans tous les films sur la guerre des six jours, où on a vu les soldats égyptiens s'enfuirent en laissant leurs chaussures. Mmh. Il y avait des milliers de chaussures dans le Sinaï et qui étaient abandonnées. Et ça, c'est quelque chose de très humiliant pour le sentiment, pour la conscience arabe. C'est une vraie humiliation, le fait d'abandonner même ses chaussures et de s'enfuir comme ça pieds nus. Et donc, on a vu tous ces soldats égyptiens qui ont été à la fois encerclés et faits prisonniers. La guerre dans le Sinaï a duré environ 2-3 jours à peu près. La ville de Gaza a été encerclée déjà dès le deuxième jour. Et pratiquement le troisième jour, lorsqu'on a pris les deux cols importants qui se trouvent dans le Sinaï, au cœur du Sinaï, lorsque les parachutistes israéliens ont pris ces deux cols, les blindés israéliens ont pu arriver jusqu'au canal de Suez assez rapidement. À partir du 7 juin va commencer une autre partie de la guerre, bien évidemment. Celle qui va même dès le 6 juin, lorsque la Jordanie va malgré tout décider d'attaquer, une partie des forces va commencer sa progression vers Jérusalem. Alors, au départ, comme je l'ai dit, l'intention d'Israël n'était pas d'attaquer la Jordanie. Il y a un message qui a été transmis à la Jordanie, au roi de Jordanie de l'époque. Mais comme l'armée jordanienne était sous le commandement égyptien, donc elle a reçu ordre d'ouvrir le feu. Mais évidemment, l'armée de l'air israélienne a immédiatement neutralisé les avions jordaniens qui ont attaqué. Et ils ont commencé à tirer sur des soldats israéliens, même au sein de Jérusalem. Alors il faut savoir que la ville de Jérusalem était séparée en deux, qu'il y avait au cœur même de la ville des barbelés, qu'il y avait même une petite enclave qui se trouvait à l'hôpital Hadassah, sur le mont Scopus, où se trouvaient des forces israéliennes qui étaient là, mais qui étaient totalement isolées et qui ont été encerclées. Et qui, ils venaient une fois toutes les deux semaines, on sortait, on rentrait, mais en fond, cette enclave était totalement isolée. Donc on a craint pour les gens qui se trouvaient dans cette enclave, qui allaient, et qui finalement ont réussi à survivre, même s'ils ont été attaqués, parce qu'ils avaient miné tout ce qui était autour de leur... De l'endroit où se trouve aujourd'hui l'hôpital Hadassah et l'université de Jérusalem au Mont Scopus. Alors il faut savoir que lorsqu'on parle aujourd'hui de la liberté des cultes, on a parlé beaucoup de la résolution de l'UNESCO et la France qui veut garantir la liberté des cultes, et la France qui s'est opposée à l'attaque israélienne. Le général de Gaulle à l'époque avait dit « n'attaquez pas les premiers, nous ne vous soutiendrons pas ». Mais la liberté des cultes, elle n'existait pas, puisque les Juifs n'avaient pas le droit d'aller au mur des Lamentations. C'était interdit d'aller dans la vieille ville.
Et
donc, la liberté des cultes, la France n'a pas fait respecter pendant 19 ans et s'en est pas vraiment occupée pour ce qui est des Juifs. Alors, lorsque à Jérusalem, l'armée jordanienne attaque, évidemment, Israël va commencer à répliquer et à attaquer. Le chef d'état-major de la région centre, Uzi Narkis, lui décide de reconquérir la vieille ville, de libérer la vieille ville. Et donc, assez rapidement, ce commandement de la région centre va commencer à se battre contre la Jordanie. Ça a été peut-être, je dirais, un des combats les plus acharnés pour la ville de Jérusalem, à la fois pour conquérir la vieille ville, mais également d'autres parties de la ville, parce qu'il y avait notamment un quartier, là où il y a la promenade actuelle de Jérusalem, qui s'appelle Armon HaNativ. À Armon HaNativ, il y avait les forces de l'ONU qui se trouvaient là. Les Jordaniens vont s'emparer de cet endroit, qui est en fait un endroit qui surplombe Jérusalem, et à partir de là, ils vont tirer sur les quartiers israéliens. Donc la 16e brigade, qu'on appelle la brigade Harel, très connue dans l'armée israélienne, va commencer à reconquérir Jérusalem. Ça va coûter beaucoup de vies dans les soldats. C'est là où il y a eu peut-être relativement le plus de pertes. Et cette brigade a pour ambition justement de libérer toute cette zone de Jérusalem. Ça va durer 2 ou 3 jours. Et finalement, l'ensemble de la Judée-Samarie va tomber aux mains de l'armée israélienne une fois que l'armée jordanienne va être défaite assez rapidement. Alors... Ce qui est important, évidemment, symboliquement, c'est cette conquête de Jérusalem qui va se dérouler le 7 juin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est Yom Yerushalayim. Mm-hmm. Hein, c'est le 7 juin, ce sont les parachutistes qui vont entrer dans la vieille ville au prix de combats acharnés. Et ils vont finalement arriver à libérer ce qu'on appelle le Kotel. Et tout le monde connaît cette
photo magnifique.
Cette fameuse photo où l'armée israélienne va finalement libérer la vieille ville de Jérusalem. Et on voit ces soldats qui sont ils sont pas des religieux, ouais, mais qui sont émus devant le Kotel, sauf qu'ils découvrent ce qu'il y a devant le Kotel, c'est-à-dire des latrines, un quartier qui a été entièrement détruit, et donc où on a construit justement des latrines devant le mur d'alimentation. En matière de respect du culte, on fait mieux. Voilà. Alors, évidemment, là, c'est un choc pour les Arabes, qui se retrouvent tout d'un coup sous la botte israélienne, on peut dire, alors qu'ils avaient espéré écraser non seulement Jérusalem juive, mais également reconquérir toute la Palestine. Et petit à petit, Israël va conquérir l'ensemble des grandes villes qui se trouvent en Judée-Samarie, c'est-à-dire Naplouse, Bethléem, Jérusalem, Jénine, Toul-Karem, etc. Ce contrôle total de la Judée-Samarie, ça arrive à peu près le 8 juin, c'est-à-dire au troisième jour de la guerre, pratiquement. Donc c'est vraiment le modèle, je dirais, d'une guerre éclair. Sur le front syrien, les choses sont un petit peu plus difficiles parce que la configuration géographique est beaucoup plus compliquée. Une fois, évidemment, que l'armée de l'air syrienne a été neutralisée, c'est plus facile. Mais malgré tout, il faut monter sur le Golan. Et donc, lorsqu'on doit conquérir une montagne, une colline, comme le Golan, et également y monter avec des blindés et de l'infanterie, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on se trouve sous le feu de l'ennemi malgré tout. Donc à partir du 8 juin, la lutte va commencer de façon intensive. Après les 6 et 7 juin, il y a eu des tirs d'artillerie, l'armée de l'air qui est intervenue. Ce n'est qu'au lendemain, vers le 8 juin, que la décision est prise de monter sur le Golan pour justement éviter des bombardements sur les villes israéliennes qui ont eu lieu pendant les 2-3 premiers jours de la guerre. L'artillerie syrienne a bombardé les kibboutzim. Il y a eu pas mal de victimes également de ce côté-là. Donc les 8 juin, la décision est prise de monter sur le Golan et de conquérir le Golan, même si cela impose l'ouverture d'un front supplémentaire et la crainte d'une intervention soviétique, puisqu'il y avait sur le front syrien des conseillers soviétiques.
D'accord.
Malgré tout, le 9 juin, on a déjà des informations sur le fait que l'Égypte veut demander un cessez-le-feu, parce que le Sinaï est entièrement occupé et l'armée israélienne se trouve déjà sur les bords du canal de Suez, contrôle la bande de Gaza. Et même lorsque le commando marin arrive à Sharm el-Sheikh, la place est vide. Ils arrivent, il n'y a plus personne. Donc ils s'installent le drapeau israélien. Il y a une scène qu'on voit dans un film comme ça, où on voit le commando marin arriver, il n'y a plus personne. Et donc, finalement, l'armée égyptienne est en déroute. Donc le 9 juin, Nasser, par certains intermédiaires, veut demander un cessez-le-feu. Mais ce jour-là commence la véritable guerre pour reconquérir justement pour conquérir le Golan. Mm-hmm. Et donc Israël ne va pas accepter un cessez-le-feu le 9 juin.
Parce qu'elle demandait un cessez-le-feu général et pas seulement un cessez-le-feu pour
l'Égypte. Dans la mesure où c'était un commandement général, une coordination D'accord. générale de la guerre, si on accepte un cessez-le-feu le 9 juin, ça veut dire que on ne pourra pas attaquer dans la région nord.
D'accord.
Donc, pour, je dirais, compléter cette victoire, l'État d'Israël avait besoin d'encore un jour ou deux.
D'accord.
Et donc, on n'accepte pas la première demande d'un cessez-le-feu sur les lignes actuelles. Et l'armée israélienne va se lancer dans la bataille du Golan, qui va durer les 9 et 10 juin. Bataille assez rude, bataille de commando, avec très peu de blindés, puisque c'est très difficile de monter avec des blindés sur un plateau comme le plateau du Golan. Et donc, il y a cette fameuse brigade Golani, qui porte bien son nom, qui va prendre d'assaut le Golan et conquérir le Golan en l'espace de 2 jours. Alors la percée sur le Golan est un peu plus lente que dans le Sinaï, par exemple, parce que le territoire, évidemment, ne s'y prête pas. Mais finalement, au terme de 2 jours de combat, Israël va prendre le contrôle du Golan.
D'accord. Michael, nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons juste après ça. Michael, donc les troupes israéliennes sont sur le plateau du Golan.
Oui.
Et que se passe-t-il ?
Eh bien, au soir du 10 juin, Israël a pratiquement achevé son offensive sur le plateau du Golan. Et donc, sous la pression de l'URSS, de l'époque, et des États-Unis, un cessez-le-feu va être signé ce jour-là. Et donc, au terme de cette guerre, donc le 10 juin au soir, l'État d'Israël est en possession de la Judée-Samarie, de Jérusalem, du plateau du Golan et de la presqu'île du Sinaï.
D'accord.
Y compris la bande de Gaza. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça a duré 6 jours. Le monde n'a même pas eu le temps. Je veux dire, la diplomatie n'a pas eu le temps de se mettre en place. Et l'ONU, pas très efficace. Tout le monde est un peu sous le choc d'une façon ou d'une autre, y compris les Israéliens, y compris le gouvernement israélien, y compris les Juifs dans le monde qui ont craint pour l'existence même de l'État d'Israël et qui, tout d'un coup, on se réveille moins d'une semaine après 6 jours, comme dit, c'est très symbolique, les 6 jours de la création. Mm-hmm. Hein. On se réveille au soir du 6e jour et avec 3 ou 4 fois la superficie qui est 3 ou 4 fois celle de l'État d'Israël. Et puis une situation géopolitique, comme on dit aujourd'hui, tout à fait nouvelle. Et une supériorité militaire écrasante. C'est-à-dire que les quatre pays de la coalition, mais aussi toute la Ligue arabe derrière, le monde arabe, se retrouve défait, humilié, en déroute. Quelque chose qui est extrêmement difficile, psychologiquement. Et ça va avoir une importance dans la suite du processus et de ce conflit, parce que la dimension psychologique, la dimension symbolique est extrêmement importante. C'est très, très chargé d'émotions, si je peux dire. Et c'est l'honneur, quoi, l'honneur militaire qui est finalement les quatre grands États arabes, dont l'Égypte, qui est un grand pays, sont écrasés militairement par un petit peuple sûr de lui-même et dominateur, comme le dira le général de Gaulle dans sa conférence de presse de novembre. Donc à partir de juin, vont commencer des négociations, vont commencer des tractations plus que des négociations, pour essayer de voir comment gérer, comment sortir de cette nouvelle situation qui est créée par la guerre des 6 jours. Encore une fois, il y a l'aspect militaire, grande victoire militaire, enseignée dans toutes les écoles de guerre comme vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais qui ne se reproduira plus de cette façon. Et puis qui va aussi, d'une certaine manière, qui va peut-être plomber, comme on dit vulgairement, l'armée israélienne par la suite, parce que au moment de la guerre de Kippour, par exemple, Israël ne va pas vouloir refaire d'attaque préventive.
Pourquoi ?
Justement, parce qu'on ne voulait pas que se reproduise encore ce fameux scénario de la guerre des 6 jours. On a hésité après. Il y a une espèce d'euphorie. Et ça, c'est clair que, en fait, cette euphorie, cette victoire militaire avec tous ses aspects symboliques. On se souvient des images. On voit Moshe Dayan qui arrive à Jérusalem devant le mur. C'est très symbolique. Il y a la chanson de Naomi Shemer, Jérusalem d'or, dont on change les paroles à la dernière minute. Tout ça, c'est tout d'un coup, on redécouvre ce qui est l'endroit le plus sacré pour le monde juif, c'est-à-dire le mur des lamentations. Donc, quelque part, une espèce d'euphorie, une espèce de rêve, une espèce de quelque chose d'impensable. Hein. Et ça va cacher la réalité aussi.
C'est-à-dire
que la réalité, c'est que au lendemain de cette défaite, eh bien, les Arabes ne vont pas vouloir négocier la paix. Bien au contraire, ils vont vouloir chercher à se venger, ils vont vouloir chercher à redorer leur blason, comme on dit, à retrouver leur honneur militaire, parce que c'est fondamental dans la mentalité arabe. Et dès le mois de septembre, il va y avoir une conférence de la Ligue arabe qui, au lieu de décider que, bon, nous avons été vaincus, entrons dans une négociation pour, à la fois, peut-être récupérer une partie de ces territoires qui nous ont été pris, ou bien trouver un consensus de cohabitation avec cet État d'Israël, eh bien, ils décident, à la conférence de Khartoum, de ce qu'on appelle les 3 non, c'est-à-dire non à l'existence de l'État d'Israël, non à la paix avec Israël, non à la négociation avec Israël. Donc un rejet total. D'accord. À la fois de l'existence de l'État d'Israël, de négociation avec Israël et de paix avec Israël. Mmh. Donc ça, c'est en septembre 1967, c'est-à-dire très peu de temps après la guerre. Donc au lieu d'en tirer les conséquences qui s'imposent, le monde arabe va en tirer les conséquences exactement inverses. Les grandes puissances, de leur côté, vont commencer à réfléchir sur comment sortir de cette situation. Et les prises de position vont varier entre les différentes puissances. Il y a la position des États-Unis qui considèrent aussi que, à partir du moment où les armées arabes ont été soutenues par le bloc soviétique, par l'Union soviétique, donc
son rôle
est malgré tout de soutenir Israël. Mais les États-Unis n'acceptent pas pour autant la présence juive et la souveraineté juive possible sur la Judée-Samarie, sur Jérusalem ou sur le plateau du Golan ou sur le Sinaï. Donc vont essayer d'arriver à une solution négociée. Et donc il y a au terme d'un certain nombre de tractations une résolution qui est adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en novembre, 22 novembre 1967, et qui parle d'une solution pacifique qui est la reconnaissance de l'État d'Israël en échange de la restitution de territoire. Et là commence tout un débat sémantique parce qu'il y a une différence entre la version française et la version anglaise de cette résolution 242, qui est au fond la base de toutes les négociations. À chaque fois qu'il y a eu des négociations entre Israël et les pays arabes, y compris par la suite après avec l'Égypte ou avec la Jordanie ou même d'autres, la base c'est en se fondant sur la résolution 242. La résolution 242 parle de restitution en anglais. On dit « from territories », c'est-à-dire « de territoires ». Et en français, on dit restitution des territoires.
D'accord.
Et donc, des territoires, ça veut dire de tous les territoires.
D'accord.
Et de territoires, ça veut dire d'une partie des territoires, pas forcément de tous les territoires. Alors, la question de base qui est posée, au fond, c'est, effectivement, on peut négocier et rendre des territoires. Mais à qui ? Le Sinaï, il n'y a pas de problème, c'est l'Égypte qui en est détenteur, disons, de la souveraineté. Israël n'a pas remis en cause, n'a occupé finalement le Sinaï que d'une façon, je dirais, défensive. Mmh. Et donc, dans le cadre d'une négociation, lorsque le président Sadat va reconnaître l'État d'Israël, de facto, dans le cadre des accords de Camp David, eh bien, Israël va restituer la presqu'île du Sinaï et reconnaître la souveraineté de l'Égypte sur la presqu'île du Sinaï. Et l'Égypte va reconnaître la souveraineté d'Israël.
Mais pour Jérusalem, c'est une
Pour Jérusalem, histoire. C'est une autre histoire, puisqu'il n'y a pas vraiment de statut. Il y a encore l'idée d'une statue internationale. On ne sait pas très bien les lieux saints, tout ça. Et la Judée-Samarie est une terre occupée.
Et pourquoi ne pas la rendre à la Jordanie ?
Alors justement, parce que la Jordanie a occupé la Judée-Samarie.
D'accord.
Au terme de la guerre d'indépendance. La Cisjordanie, qu'on a appelée, c'est-à-dire la Judée-Samarie, géographiquement, c'est la Judée-Samarie, politiquement, on a appelé ça la Cisjordanie, a été annexée par le royaume hachémite de Transjordanie, qui est devenu le royaume hachémite de Jordanie,
d'accord,
avec une occupation de la Judée-Samarie. Ce que les gens ne savent pas lorsqu'on parle de droit international, c'est que cette occupation, cette annexion de la Cisjordanie par le royaume hachémite de Transjordanie n'a été reconnue par aucune instance internationale. Il n'y a que deux États dans le monde qui ont reconnu cette souveraineté, c'est le Pakistan et la Grande-Bretagne,
c'est
curieusement. Alors, sur Jérusalem, pareil, pas de statut, donc la question est de savoir à qui rendre. Israël dit, puisque c'est la Jordanie qui occupait ces territoires, négocions avec la Jordanie. Mais au bout d'un moment, la Jordanie va s'aligner sur la position des Palestiniens et dire, nous ne sommes plus les représentants des Palestiniens, vous devez négocier avec les Palestiniens. Et donc, une des conséquences de la guerre des six jours, ça va être aussi l'apparition de ce qu'on a appelé la question palestinienne. Mmh. C'est à partir de ce moment-là que les Palestiniens vont, alors qu'ils étaient à chaque fois, je dirais, insérés dans un conflit des grands États arabes,
d'accord,
et eux n'étaient au fond que derrière les États arabes. C'était Nasser qui faisait la guerre pour libérer la Palestine au nom de la nation arabe. Mmh. La question palestinienne était, je dirais, secondaire.
Donc il n'y avait plus cette volonté de Pan-Arabie, de cette grande nation arabe de la part de la Jordanie ?
La guerre des six jours, ça a marqué aussi la fin de ce rêve, d'accord, de Pan-Arabisme, quand même, c'est un échec total. Et puis on va voir apparaître, évidemment au lendemain de cette défaite, chef de ce qu'on a appelé les Palestiniens de l'époque, qui s'appelait Ahmed Choukairi, va être renversé, va être écarté au profit de Yasser Arafat. D'accord. Et Yasser Arafat va, avec toute sa ruse et son intelligence, essayer de transformer la question palestinienne comme la question centrale, en utilisant le fait qu'Israël occupe, selon ses termes, les territoires palestiniens, d'accord, qui n'ont jamais été revendiqués par les Palestiniens auparavant.
D'accord.
C'est-à-dire, on peut se poser la question, pourquoi pendant 19 ans, en Judée-Samarie, il n'y a jamais eu d'État palestinien, ni même à Gaza. Gaza était contrôlé par l'Égypte, et la Judée-Samarie était contrôlée par la Jordanie. Mais à aucun moment, dans ces territoires-là, il n'y a eu de revendication nationale palestinienne. À partir du moment où ces territoires sont sous domination, sous administration israélienne, eh bien, il va y avoir cette revendication au nom de la libération d'une occupation.
D'accord.
Et c'est là, peut-être, toute la ruse d'Arafat qui réussit, justement, à présenter, à partir de 1967, la question palestinienne comme une question nationale, comme, je dirais, un grand mouvement de révolution nationale. Et donc, il va s'inscrire dans le même combat que les grands mouvements révolutionnaires que l'on connaît en Amérique du Sud ou même en Afrique.
D'accord.
Et donc, il va finalement lier à la question palestinienne, à la libération du colonialisme et à la création de nouveaux États indépendants, comme ça a été le cas en Afrique ou en Amérique du Sud.
Michael, nous allons faire une petite pause musicale.
D'accord.
Et nous revenons juste après. Michael, nous allons faire une conclusion sur cette guerre des six jours.
La conclusion, je l'ai dit au départ, la guerre des six jours n'est pas terminée.
Oui.
C'est-à-dire que nous sommes encore dans les conséquences. C'est quelque chose qui s'est déroulé il y a presque 50 ans, bientôt. Et donc, en l'espace d'un demi-siècle, évidemment, le monde a changé, le Proche-Orient a changé, le panarabisme n'existe plus, l'Égypte a fait la paix avec Israël, la Jordanie a fait la paix avec Israël, le monde a radicalement changé. La question... palestinienne reste une question en suspens. Les Palestiniens n'ont pas su, pendant toutes ces années, trouver le moyen de négocier avec Israël. Peut-être qu'Israël aussi a sa part de responsabilité, mais Israël a tendu la main à plusieurs reprises, que ce soit au moment des accords de Camp David, où il y avait dans les accords, même avec l'Égypte, une partie où on mentionnait la question de palestinienne, dans les années 2000, avec Ehud Barak, ensuite Ehud Olmert. Donc à chaque fois qu'on leur a tendu la main pour essayer de trouver un accord pour que peut-être se crée un État palestinien, quelque part, dans des frontières qui seront négociées. Et évidemment, la question de la souveraineté, elle se pose... à partir d'une négociation et non pas à partir de déclarations ni même de solutions qui peuvent être imposées de l'extérieur. Il y a un autre aspect, c'est la société israélienne. D'un côté, il y a eu cette phase d'euphorie, mais tout de suite, il y a eu, au lendemain de la guerre des six jours, une guerre d'usure qui a commencé, qui a coûté beaucoup de vies le long du canal. On a recontinué, il y avait des bombardements, il y avait des attaques de missiles. Donc il y avait finalement deux sociétés. Une société qui a, et ça c'est aussi une des conséquences de la guerre des six jours, c'est que la société israélienne a commencé à se développer de façon incroyable. Il y a une très grande alia, très importante, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de l'alia des Juifs de France, mais après la guerre des six jours, il y a une alia très importante, notamment de France, mm-hmm. et d'autres pays. Il y a eu la création de certains mouvements qui ont décidé, par exemple, que à partir du moment où nous étions en Judée-Samarie, eh bien, il fallait se réinstaller sur cette terre d'Israël, qui est notre terre aussi. Et donc, on a créé toutes ces villes. Et puis, on a bien évidemment développé la ville de Jérusalem, tout autour de Jérusalem, cette grande Jérusalem, la couronne de Jérusalem. Et puis, on a aussi retrouvé des endroits où ont toujours vécu des Juifs, que ce soit à Hébron, mais aussi dans ce qu'on appelle le Gush Etzion, qui était juif, où il y avait des kibboutzim qui existaient avant la guerre d'indépendance, qui avaient été expulsés et qui sont revenus dans leur kibboutzim, qui avait été abandonné, où leur famille avait été massacrée. Donc quelque part, cette guerre des six jours a ouvert finalement l'État d'Israël aussi sur, je dirais, sur une autre réalité. Il y a eu des victimes, on pense que ça, c'est une guerre éclair, mais il y a eu quand même plus de 700 morts pendant la guerre des six jours. Il y a eu des échanges de prisonniers, il y a eu, évidemment, il y a eu beaucoup plus de morts du côté arabe, et des échanges de prisonniers, et il reste encore quelques disparus d'ailleurs de la guerre des six jours, des soldats dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Voilà, ça a été probablement... je dirais une révolution dans la société israélienne, quelque chose qui a radicalement changé. On s'est rendu compte à la fois de l'importance que pouvait avoir la puissance militaire d'Israël, le fait d'avoir des alliés. On a changé d'alliance finalement. Au lendemain de la guerre des six jours, l'alliance avec la France est devenue caduque, puisque le général de Gaulle a été blessé d'une certaine façon par le fait qu'Israël n'a pas écouté ses bons conseils. Et que pour lui, Israël n'aurait pas dû attaquer. Israël n'a pas fait confiance. Et le général de Gaulle avait dit, si vous êtes attaqué, nous venons vous défendre. Mais Israël, on a compris à ce moment-là qu'on devait compter essentiellement sur notre armée. Et évidemment, la société israélienne a été extrêmement marquée également dans le discours. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce qu'ont vécu les soldats dans cette guerre. Évidemment, la guerre des six jours a marqué l'histoire d'Israël.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, et je vous dis à très bientôt.